Bonjour Gaëtan, comment vas-tu?
Bonjour Marc, ça va très bien, merci, toi aussi.
Oui, très bien, merci. Merci de prendre encore un peu de temps avec nous pour analyser peut-être un peu plus en profondeur certains sujets d'actualité. Cette semaine,
Plaisir.
on voudrait revenir un petit peu sur ce projet de la carte électorale, donc il fait encore parler. Peut-être si tu serais d'accord de faire un petit retour, un petit historique avant qu'on aille dans ce qui se passe aujourd'hui sur ce sujet-là pour qu'on ait un petit condensé du processus, dans le fond, d'où il vient et vers où est-ce qu'il va aller.
OK, parfait. Écoute, le découpage de la carte électorale, c'est un dossier qui a été très présent dans l'actualité il y a environ un an. Il y a eu des consultations publiques et bon, la loi sur les élections fait en sorte que le directeur général des élections, le DGE, doit réviser à tous les 2 mandats, donc aux 8 ans en théorie, la carte électorale du Québec. Puis il y a des critères qui sont en place, dont un critère prépondérant qui fait en sorte qu'on devrait avoir des circonscriptions électorales, 125, en l'occurrence au Québec, on devrait avoir 125 circonscriptions électorales qui possèdent environ le même nombre d'électeurs électrices, 51 000, plus ou moins 25 %. Donc 51 000 votants par circonscription, puis on donne un paramètre de plus ou moins 25 %. Et le problème, c'est qu'il y a des régions comme la Gaspésie où la population croît, mais elle croît moins vite, elle augmente moins vite que dans les grands centres. Puis ça fait en sorte que, bon, l'année passée, le DGE proposait de fusionner les deux comtés de Bonaventure et Gaspé en un seul comté, parce que la population, le nombre d'électeurs était trop bas par rapport à la moyenne québécoise. Donc, c'est ça l'enjeu, c'est toute la question de l'équilibrage du nombre de voteurs, d'électeurs électrices par circonscription.
Alors là, ce qu'on entend en ce moment dans les nouvelles, c'est vraiment que ce projet-là a l'air d'être comme revisité, en fait, c'est bien ça?
Oui, le gouvernement du Québec a annoncé la semaine dernière sa volonté de suspendre la démarche en cours de fusionner les comtés de Bonaventure et Gaspé. Puis il y avait aussi un comté dans Montréal, à Montréal, sur l'île, qui disparaissait. Puis entour, on créait 2 comtés dans la couronne urbaine de Montréal, dans les banlieues. Parce qu'on sait que Montréal aussi diminue de population, mais c'est les banlieues autour de Montréal qui croient énormément en termes de démographie. Donc là, le gouvernement de la CAQ, il y a une volonté unanime de tous les partis politiques, de tous les 125 députés, en théorie, parce qu'on dit que c'est une décision unanime de l'Assemblée nationale, d'utiliser la même carte électorale de 2022 pour l'élection de 2026. Donc, on suspend la démarche d'enlever une circonscription en Gaspésie en fusionnant Bonaventure et Gaspé et d'enlever également une circonscription sur l'île de Montréal. On appliquerait donc la carte électorale de 2022 pour la prochaine élection de 2026, mais ça prend une loi pour modifier la loi actuelle, parce que sinon, le directeur général des élections, lui, pourrait, de son propre chef, là, de son propre gré, décider d'enlever une circonscription en Gaspésie. Donc, ça prend une loi pour modifier ça. Et la bonne nouvelle, c'est que toutes les formations politiques sont unanimes pour dire que oui. Mais là, le DGE, lui, il s'oppose un peu à cette décision-là. Ce qu'on voit, c'est que le 28 mars dernier, le directeur général des élections a émis un communiqué de presse. Il est disponible sur le site du DGE, Élections Québec, 28 mars. On peut aller le consulter. Puis ce que ça dit, dans le fond, c'est que ben, le DGE est un peu fâché que le gouvernement se mêle de son travail, puis que lui, il recommande de laisser le processus légal qui est en cours s'appliquer et de lui laisser la possibilité de modifier la carte et éventuellement de fusionner le comté de Bonaventure et Gaspé et 2 circonscriptions dans Montréal aussi. Fait que c'est sûr que c'est 2 approches différentes. Tu as l'approche du DGE qui est un très haut fonctionnaire nommé par l'Assemblée nationale qui lui dit, ben, j'ai une loi actuellement, je suis en processus de modifier la carte électorale, laissez-moi faire, ne faites pas d'ingérence politique. Ça peut s'expliquer jusqu'à un certain point, mais en même temps, il faut se poser la question, est-ce que ce n'est pas de l'abus de pouvoir, de l'ingérence de la part du DGE, parce que le DGE, il est nommé par l'Assemblée nationale. Et ultimement, au Québec, là, le pouvoir ultime du Québec, ben, c'est l'Assemblée nationale. Ce sont les 125 députés composés de toutes les formations politiques qui, de façon unanime, ont dit ça n'a pas d'allure, on ne peut pas modifier la carte comme le DGE veut le faire. Donc, on va modifier la loi pour qu'il n'aille pas de l'avant dans son projet. Fait que le principal intéressé qui est nommé par l'Assemblée nationale, qui applique la loi de l'Assemblée nationale, ben, semble s'opposer à la volonté de l'Assemblée nationale. Fait que c'est quand même spécial, on a rarement vu ça. Puis ça démontre le pouvoir immense des hauts fonctionnaires. Parce que là, c'est le DGE qu'on cite en exemple, mais souvent, on a dit dans nos chroniques, puis on a eu l'occasion de le répéter, que les hauts fonctionnaires ont un pouvoir extraordinaire au Québec, souvent plus grand, plus important que certains politiciens, certains ministres même. Puis là, c'est un exemple concret, parce que le DGE est en train de contester ou de s'opposer ou critiquer une décision de l'Assemblée nationale du Québec unanime. C'est rare que toutes les formations politiques s'entendent, que tous les députés, les 125, s'entendent sur une question. Puis là, ben lui, il conteste ça. Donc, c'est l'élément que je trouve particulier dans tout ce dossier-là.
Effectivement, il y a un projet de loi qui est déposé par la CAQ, mais il y a aussi un deuxième projet de loi, parce qu'en fait, bon, l'idée, c'est de maintenir le nombre de circonscriptions, mais il y en a un deuxième, si tu veux nous en parler, là, qui est pour réviser, en fait, les critères.
Oui, exactement. Le gouvernement ou l'ensemble des formations politiques disent qu'il faut agir rapidement pour stopper le processus pour enlever la circonscription en Gaspésie et à Montréal. Donc ça va être un premier projet de loi. Puis le second, c'est pour reviser en profondeur la loi sur les élections, la carte électorale. Je pense que c'est intéressant parce que effectivement, il y a des problèmes, là. Il y a des problèmes. Les critères qui sont appliqués par le directeur général des élections sont principalement basé sur le seuil populationnel. C'est bête et méchant, on l'a déjà dit, là. La loi dit c'est 125 circonscriptions, plus ou moins égales à la hauteur de 25 % d'électeurs électrices. Donc, on ne tient pas compte de l'étendue du territoire, on ne tient pas compte des affinités sociales, économiques, on ne tient pas compte du sentiment d'appartenance, on ne tient pas compte de la région administrative. Par exemple, dans la carte déposée par le DGE, bien, la MRC de la Haute-Gaspésie, le coin de Sainte-Anne-des-Monts, se retrouvait dans la MRC de Matane, avec le comté de Matane dans la région Bas-Saint-Laurent. Donc, il y a des critères que le DGE soulève à quelques reprises dans ses décisions. Mais il revient toujours avec le facteur prépondérant de la démographie. Puis ça, bien, la démographie, bien, ça joue toujours contre les régions. Et il me semble qu'au Québec, avec un immense territoire comme on a, avec une population très dispersée, si on veut que l'ensemble des régions soient représentées, il va falloir modifier, ajouter des nouveaux critères pour tenir compte de ces particularités-là. Et c'est ce que le gouvernement se propose de faire là, dans la prochaine année ou les prochaines années avant la prochaine élection. Donc, en théorie, c'est une bonne décision, mais il reste que je dis un mais parce que souvenons-nous, il y a quelques années, on parlait d'un autre dossier qui est similaire un peu à la carte électorale. C'est la question de la loi sur toute la réforme du mode de scrutin. Hein? On parlait il y a quelques années de modifier le mode de scrutin au Québec, puis au lieu d'avoir 125 comtés avec des députés élus, on aurait 60 circonscriptions, 75 comtés, je m'excuse, 75 et non pas 60. On passerait de 125 à 75 comtés, circonscriptions, où les députés seraient élus par leur population. Et il y aurait 50 députés qui seraient nommés par les chefs de parti. Donc, c'est tout un autre mode de fonctionnement. On appelle ça les proportionnels, mixtes, régionales, etc. Puis ça, c'est un dossier qui a fait couler beaucoup d'encre. Il a été mis sur la glace par la CAQ à son arrivée au pouvoir en 2018, mais moi, je doute fortement que ce dossier-là ne revienne pas dans l'actualité. Je pense que dans le prochain projet de loi, le second projet de loi, certaines formations politiques pourraient être tentées de inclure aussi toute la question de la réforme du mode de scrutin. Donc, on a une partie, c'est-à-dire une manche de gagner en Gaspésie dans le dossier de la carte électorale et de la révision du mode de scrutin, mais la partie n'est pas gagnée encore. Il va falloir être très vigilant pour que le prochain projet de loi ne propose peut-être ne propose pas un mode de scrutin qui fera en sorte qu'on arriverait à un résultat pratiquement similaire avec le Québec divisé en 75 comtés au lieu de 125. Mais le résultat, c'est qu'on va avoir encore des immenses comtés dans les régions. Puis on risquerait d'arriver au même résultat, d'avoir un seul comté pour la Gaspésie. Donc, faut pas crier victoire trop vite, il faut demeurer extrêmement, extrêmement vigilant. C'est un dossier qui est très important.
Est-ce que ce n'est pas une stratégie aussi, si elle était employée, de sécuriser un peu un gouvernement majoritaire aussi? S'ils pouvaient, eux, partir de là, choisir, enfin, en choisir 50.
Ben absolument, c'est le risque, c'est un des risques, puis c'est un mode de fonctionnement qui est très répandu en Europe. La question des modes de scrutin avec proportionnel, il y a plusieurs modèles qui existent, mais en Europe, il y a une forte densité de population sur des petits territoires. Donc, ça peut peut-être avoir sa place dans certains cas, mais ça a comme inconvénient de amener beaucoup de gouvernements de coalition, hein? Quand je dis inconvénient, certains voient ça comme un bon côté aussi, parce que ça force le consensus, ça force les partis à faire des ententes, un peu comme ce qu'on a présentement à Ottawa. Présentement à Ottawa, on a un gouvernement libéral minoritaire qui a fait une entente avec une autre formation politique, le NPD, et c'est ce qui fait que le Parti libéral du Canada, avec M. Trudeau, demeure en fonction. Sinon, il aurait été battu à plusieurs reprises sur différents votes qui sont tenus au Parlement. Donc, c'est un peu la conséquence. Quand on a des systèmes basés sur des modes de scrutin avec des proportionnels, avec des formules mixtes, là, ça force la coalition entre les formations politiques. Puis, c'est un modèle qui n'est pas très, très répandu au Canada. En Amérique, on n'est pas habitué à ça, mais c'est peut-être une nouvelle tendance. Donc, un dossier à suivre, mais un dossier très complexe. Mais c'est pas parce que c'est complexe qu'on ne doit pas s'en occuper, parce que les conséquences pourraient être quand même extrêmement importantes pour une région comme la Gaspésie qui a peu de population, mais beaucoup de défis à relever, beaucoup d'enjeux majeurs.
Alors, le deuxième sujet qui nous interpellait là, c'était les autoroutes électriques d'Hydro-Québec, qui a fait quand même couler de l'encre. Alors, je sais que ça touche un peu différentes sphères, là, comme on s'en parlait tout à l'heure. Là, c'est vraiment un peu comme on veut sortir on va dire des polluants, on veut passer dans des modes plus écologiques, plus verts. Donc, on aurait besoin aussi d'avoir des éoliennes, mais pour ça, on a besoin d'avoir des autoroutes électriques. Est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu de ce sujet-là et quelle est ta vision?
Oui, ben c'est ça. C'est un article qui est sorti dans les derniers jours là, dans la presse. Puis quand on parle d'autoroute électrique, il faut s'entendre, là, pour que ça soit bien clair, ce sont des corridors de transport d'énergie. Ce n'est pas des routes avec des autos électriques. Quelqu'un me disait ça ce matin. Non, non, on n'est pas là encore, là. C'est vraiment d'augmenter le nombre de lignes de transport d'énergie pour avoir plus de capacité électrique au Québec. Puis concrètement, nous, en Gaspésie, c'est un dossier qui nous touche directement parce que on a un bouchon d'étranglement. Les gens ont sûrement entendu ça dans les dernières années. La ligne électrique qui relie la Gaspésie au Grand Centre, Québec, Montréal, ben, rendue à Rivière-du-Loup, on a un problème. Le câble est trop petit. Puis on ne peut plus produire d'énergie à partir de l'est du Québec. Par exemple, les parcs éoliens, on ne peut plus en construire parce que la ligne ne pourrait pas supporter plus de charges. Donc, ça fait des années que le monde municipal, les préfets, les maires, les intervenants économiques demandent au gouvernement du Québec de grossir la ligne de transmission électrique pour permettre du développement éolien, notamment là, dans le Bas-Saint-Laurent et dans le Gaspésie. Donc, l'annonce du gouvernement des derniers jours est quand même une bonne chose quand on regarde ça parce que ça va nous permettre de produire davantage d'électricité et d'en transporter davantage à partir des régions, la Côte-Nord notamment, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. C'est un projet de 30 à 40 milliards de dollars. C'est énorme. C'est prévu pour les 10 prochaines années et ça pourrait mobiliser jusqu'à 30 % de tous les travailleurs de la construction. Fait que t'imagines-tu, Marc, c'est incroyable comme chantier. C'est pratiquement une deuxième Bay James, là. Bon, maintenant, il n'y a rien de parfait. Construire des lignes de transport d'énergie, ben on envoie des lignes de transport là, sur nos territoires. Ce sont des grosses infrastructures qui sont visibles. Ce sont des lignes généralement avec des pylônes en acier, comme on voit dans certains secteurs de la Gaspésie et le long de l'autoroute 20 beaucoup. Donc ça, c'est sûr qu'il y a des gens qui se disent, oui, mais c'est de la pollution visuelle, ça va altérer la beauté de nos paysages, ça va avoir un impact sur l'industrie touristique dans certaines régions. Puis, ça va aussi affecter peut-être des zones humides, l'habitat au niveau de la faune, de la flore, etc. Donc, toute la biodiversité risque d'être affectée parce que ce sont des infrastructures qui vont être construites partout sur le territoire et parfois dans des secteurs plus fragiles au plan des écosystèmes, tout ça. Donc, puis il y a aussi tout le syndrome du pot dans ma cour. Tout le monde veut plus d'électricité. Mais personne ne veut voir des tours là, dans sa fenêtre de salon ou de cuisine. Hein? ou à partir de sur son terrain. Donc, c'est sûr que ça va semer toute une polémique. C'est tout le débat de, comme tu le disais tantôt, on ne veut plus produire d'énergie à partir des sources polluantes comme le pétrole, comme le gaz naturel. On ne veut pas de nucléaire au Québec, mais on est devant une situation où on a de plus en plus be besoin d'énergie. La population du Québec augmente, les nouvelles entreprises sont souvent très énergivores, donc il faut avoir une capacité pour les alimenter. Puis, il y a aussi tout le développement des voitures électriques qui fait en sorte que oui, on vend moins de pétrole, mais on a besoin de plus d'électricité. Donc, à un moment donné, c'est un débat de société. Pour la Gaspésie, à court terme, moi, ce que j'entends des leaders, des élus, c'est que les gens sont très heureux parce qu'on va pouvoir poursuivre la construction de parcs éoliens. Les parcs éoliens, bon, c'est de l'énergie relativement verte, c'est intéressant, mais en plus, ça amène des redevances à nos MRC et à nos municipalités. Seulement en Gaspésie, c'est tout près de 5 millions de dollars par année qui est distribué entre les municipalités et les MRC de la région. Puis ce montant-là pourra augmenter jusqu'à 8, voire 10 millions par année dans les prochaines années si on construit des nouveaux parcs. Fait que c'est de l'argent pour aider à nos municipalités à défrayer les services municipaux, etc., faire du développement social, économique. Mais en même temps, il y a sûrement des intervenants au niveau de environnemental, au niveau phonique, qui vont poser des questions au gouvernement, qui vont mettre des conditions, puis s'assurer que ces travaux-là, s'ils se réalisent, ben, que ça se réalise avec le moins d'impact négatif possible sur l'environnement et sur toute la biodiversité. Donc, peut-être des BAP, sûrement des BAP, des bureaux d'audience publique en environnement qui vont être demandés par l'ensemble de la population. Et à ce niveau-là, je crois que le gouvernement va sûrement prêter l'oreille parce qu'on peut se souvenir dans les derniers mois de tout le dossier, la saga de l'entreprise Northvolt que le gouvernement du Québec a voulu réaliser en toute vitesse, sans passer par le BAP. Donc ça n'a pas bien été reçu au Québec. Je pense que le gouvernement doit avoir tiré sa leçon. Donc, ce serait illusoire de penser qu'on pourrait construire des lignes à haute tension comme ça, des corridors de transmission d'énergie aussi importants et en aussi grande quantité sans consulter la population, notamment par le processus du BAP. Donc, un dossier, on a 10 ans. Pour le réaliser selon les échéances qui sont déposées. Mais si on veut être prêt dans 10 ans, il faut commencer dans les prochains mois qu'on nous dit. Donc, un dossier qui va sûrement prendre beaucoup, beaucoup de place dans l'actualité. C'est un dossier d'intérêt national, mais en Gaspésie, c'est perçu comme une bonne nouvelle.
Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.